Bonjour Renaud. Alors aujourd'hui, je vais continuer de vous lire sur Shobindo, son départ, par Amal Kiran, qui a été un de ses plus anciens disciples de l'ashram. Et c'est quelque chose qui a été publié en 1951, mars 1951. C'est une revue de la culture et de la synthèse franco-asiatique. Mot des plus surprenants pour tous ceux qui pouvaient espérer qu'une longévité inhabituelle due à une descente croissante du supramental faisait partie du programme du maître. Une autre joyeuse surprise fut pleine d'un étrange pressentiment. À chacun qui s'occupait de lui et qui travaillait avec lui dans sa chambre, il donna soudain un signe de tendresse personnelle. Sri Aurobindo n'était pas précisément une nature compatissante avec une nature démonstrative. Il avait la subtile douceur d'un éther enveloppant, et bien que son extrême compassion fût évidente à la fois dans le travail qu'il avait entrepris et dans de nombreuses lettres écrites à ses disciples en difficulté, l'expression physique de son imposante attitude paternelle était rare. Un bref instant, il eut envers ses assistants, pour chacun d'entre eux, une façon différente et une occasion différente. Un geste nettement marqué d'affection, comme s'il avait souhaité qu'il sache, avant qu'il ne fût trop tard, combien il appréciait leur service. Ce geste extrêmement doux fut bienvenu, sembla contenir la vague et poignante possibilité d'un départ. Une troisième surprise fut une remarque qui tomba étrangement dans l'oreille d'un disciple chargé de noter tout ce que Sri Aurobindo dictait, lettre ou livre. Le maître avait travaillé sur Savitri pendant plusieurs années. Révisant le texte écrit précédemment et ajoutant constamment, augmentant les significations, enrichissant l'histoire, étendant le symbolisme, entrant de plus en plus intensément dans la vision des plans surhumains d'existence et de connaissances auxquels il avait accès, respirant avec un sentiment de plus en plus profond les vastes rythmes des mouvements des dieux qui lui étaient devenus très familiers. Or, de quelques silences insondables, il tirait des phrases d'or et des lignes apocalyptiques. Il s'arrêtait comme s'il avait des éternités à gaspiller, ou poursuivait, dans un splendide mouvement d'images occultes et des descriptions révélatrices, révisait ce qu'il avait écrit avec un œil soucieux du moindre détail de ponctuation et de rythme. Et il repartait en avant avec une vaste aspiration qui demeurait pourtant méticuleuse. Majestueux travail fait à loisir, Savitri fut conçu avec un peu de cet antique tempérament qui jouit des constructions massives, comme le fut le tempérament des auteurs du Ramayana et du Mahabharata, qui embrassaient toute la vie et la pensée humaine dans leur cadre spacieux, et entrelaçaient les travaux du monde caché des dieux, des titans et des démons, avec leurs activités terrestres. Le souffle de Sri Aurobindo était en quelque sorte cosmique. Il désirait que son poème sculpte d'une façon multicolore et multilatérale dans la musique des mots les secrets gigantesques du yoga supramental. Plus de 55 000 vers furent jugés nécessaires pour enchâsser la vision unique, l'expérience sans parallèle. Une patience aussi immense que cette vision et que cette expérience caractérisa toujours les relations de Sri Aurobindo avec son poème Savitri. Ainsi, la version sur laquelle il travaillait était la 11e ou la 12e. Un temps illimité semblait mis à sa disposition quand il s'asseyait pour dicter des lignes comme celles que traite de l'image centrale du poème. Ainsi que dans une danse mystique et dynamique, une prêtresse d'extase immaculée, inspirée et dirigée par la voûte révélatrice de la vérité, se meut dans quelques cavernes prophétiques des dieux. Un cœur de silence dans les mains de la joie, habité avec de riches pulsations, créatrice, un corps pareil à une parabole de l'aube et qui semblait la niche d'une divinité voilée ou la porte d'un temple d'or sur les choses de l'au-delà. Savitri. Mais brusquement, 2 mois avant le fatal 5 décembre, Sri Aurobindo surprit son secrétaire en disant « Il me faudra bientôt terminer Savitri ». Naturellement, ceci ne précisait pas la date de son départ, ni ne prouvait le désir d'un départ, mais déjà la lutte sinistre dans laquelle il s'engageait et qui s'est terminée à cette date-là, se dessinait comme une possibilité dans un avenir proche. Et un certain fait concernant Savitri peut servir ici un excellent symbole. Bien qu'il s'efforçât de finir rapidement son poème épique, celui-ci resta inachevé. Il devait se composer de 12 livres et d'un épilogue. Or, bien que l'épilogue fût écrit, au moins dans une première rédaction, et que le livre des commencements, celui du voyageur des mondes, celui de la mère divine, celui de la naissance et de la quête, celui de la vie, celui de l'amour, celui du destin, et plusieurs autres existaient, soit déjà imprimés, soit à l'état de manuscrit. Le seul livre que nous n'ayons, sous aucune forme, sauf une courte esquisse écrite il y a des années et qui devait être révisée et incorporée à tout plus vaste, est le livre de la mort. Ce fait est des plus éloquents, car il est un livre qui ne pouvait pas être acquis avant que Sri Aurobindo n'en fût venu aux prises avec le spectre macabre, comme s'il avait dû attendre quelques extrêmes crises de son existence corporelle avant de pouvoir aborder cette partie de la légende symbolique. Tout contribue à prouver que ce qui lui est arrivé au petit matin de ce jour de décembre n'a pas uniquement été une catastrophe physique, un malencontreux accident à la vie divine sur Terre, mais un redoutable jeu, librement accepté, une terrifiante épreuve subie dans un but précis, une bataille affrontée avec les yeux grands ouverts, dans tous les détails meurtriers et engagés, avec la possibilité explicite de perdre l'instrument corporel le mieux doué et le plus glorieux qui fut forgé par l'Esprit éternel manifesté. Mais cela ne répond pas encore à la question. Quelle pouvait être la raison de cette dangereuse expérience ? Il est douteux qu'une réponse de l'intelligence seule puisse entièrement être satisfaisante. Peut-être aucune réponse ne doit être cherchée. Et nous devons nous contenter de la conviction que Sri Aurobindo, de sa propre volonté, fit ce qu'il jugea le plus utile à l'avancement de son œuvre. Et nous pouvons nous en remettre à la mère, l'associé de Sri Aurobindo dans son œuvre, pour dévoiler dans les développements concrets du yoga intégral dans l'avenir les raisons suprêmes de la volonté du maître. Néanmoins, le maître lui-même n'a jamais découragé les efforts de la pensée pour comprendre l'action multiple de l'esprit. L'expression intellectuelle de la connaissance intérieure directe ou de toute autre prise de conscience intuitive de l'inconnu était une chose qui l'encourageait. Et si, par un contact avec sa propre philosophie lumineuse, nous pouvons arriver à une lueur mentale des intentions du supramental de Sri Aurobindo, nous ferons ce que lui-même, d'un au-delà caché à nos sens grossiers, ne refusa peut-être pas d'approuver. Le point central de la philosophie de Sri Aurobindo et de son yoga est la conscience dynamique de vérité qu'il appelle le supramental. Sur cette phrase prophétique, nous pouvons terminer notre tentative d'élucider un peu le mystère de cet aspect de majestueuse méditation que le maître garda depuis le petit matin du 5 décembre et pendant plus de 11 heures, étendu sur le simple lit de sa chambre, où il avait passé plus de 20 ans dans un travail intensif de portée grandiose et mondiale, spirituellement impériale. Et toute est la seule expression qui convenait à son apparence corporelle. Le maintien majestueux, avec sa barbe blanche et ses cheveux blancs, tombant autour d'un front puissant. Les yeux tranquilles, aux paupières fermées, et le nez aquilin aux narines bien dessinées, des lèvres fermes, dont les coins étaient touchés par la béatitude. Les larges épaules rondes, les bras repliés, les mains reposant sur sa poitrine indomptable, mains d'artiste et pourtant des mains puissantes. Des hanches viriles couvertes d'une ample étoffe de soie liserée d'or, les jambes enfin étendues avec une majesté innée qui semblait se souvenir d'avoir pendant 79 ans foulé de leurs pieds sacrés une terre qu'il avait bénie et possédée à la fois. L'atmosphère de la chambre était vibrante d'un pouvoir sacré, purificateur et illuminateur. Un pouvoir qui semblait émaner de l'équilibre, de ce repos vainqueur, et qui pénétrait tous les veilleurs avec une force, leur martelant le cerveau, comme si redoublant d'intensité en raison du retrait de Sri Aurobindo de son corps physique et venait se déverser sur une humanité la grâce transfiguratrice du supramental. Nous pouvons ajouter que la présence même de Sri Aurobindo était devenue étrangement plus intense. Lui, qui s'était si longtemps claustré dans une chambre afin de hâter par son immense concentration le processus yogique de transformation, dont la merveilleuse félicité dynamique était transmise aux disciples par la mère, au moyen de sa proximité physique, avait créé, en abandonnant son enveloppe charnelle, une nouvelle intimité avec eux et les avait pris encore plus directement dans son être immense. Ce serait à peine faire justice à cet être que de le penser seulement comme une immensité enveloppante. Derrière l'écorce matérielle existent d'autres véhicules organisés. Sharira. Sri Aurobindo avait amené le corps causal dans le subtil proche, le poussé et le pressé dans l'enveloppe extérieure au moment de son sacrifice stratégique. Pour reprendre les mots, la transformation avait été faite à un degré suffisant sur les autres plans. Ceci signifie qu'il gardait le supramental incorporé dans l'enveloppe subtile et qu'aucune nécessité occulte, aucune loi de la nature subtile ne pouvait l'obliger à abandonner cette dernière enveloppe pour retourner à un plan où l'âme aurait à se reposer avant de renaître avec un nouveau corps subtil, aussi bien qu'avec un nouveau corps matériel. Le maître, à l'heure où il quitta son corps, était à même de faire bien davantage qu'être le Purusha. L'être ou l'âme cosmique et transcendant dont le yoga supramental l'avait fait par personnalité incarnée. Il pouvait effectivement devenir ce Purusha actif dans un corps subtil, indissoluble, à la fois humain et divin, en contact bien plus direct et constant avec le monde matériel que ne pouvaient l'être les formes que les mystiques prêtent aux rishis, prophètes et avatars. Dans un sens très spécial par conséquent, Sri Aurobindo, cette personnalité gracieuse et merveilleusement douée, notre gourou, maître spirituel que nous aimons, était encore à l'œuvre et c'est une vérité concrète que la mère a exprimée en disant « S'affliger, c'est insulter Sri Aurobindo, qui est ici même avec nous, vivant et conscient. La même vérité concrète est enchâssée dans le magnifique message du 7 décembre qu'elle nous a transmis des profondeurs où elle et Sri Aurobindo ne sont qu'un. Seigneur, tu m'as donné l'assurance ce matin que tu resteras avec nous jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée, non pas seulement comme une conscience qui guide et qui illumine, mais aussi une présence active et agissante. En termes clairs et précis, tu m'as promis que tout de toi resterait ici et ne quitterait pas l'atmosphère de la terre jusqu'à ce que la terre soit transformée. Permet que nous soyons toujours dignes de sa merveilleuse présence et que dorénavant tout en nous soit concentré sur l'unique volonté d'être de plus en plus parfaitement consacré à l'accomplissement de ton œuvre sublime. Alors je termine le dernier petit chapitre. Ainsi, l'œuvre continue. La mère, affrontant le futur avec le maître sous une forme subtile à ses côtés. Et pour ceux qui ont la foi dans l'achèvement de l'œuvre et qui comprennent ce qu'elle signifie, existe un espoir qui voit l'avenir riche d'une possibilité particulièrement consolante. Sri Aurobindo a écrit au sujet de l'époque où la descente du supramental dans la chair vivante sera réalisée. Suivant la théorie des occultistes et en accord avec l'échelonnement des domaines et des plans de notre être, que la connaissance yogique nous révèle. Il n'existe pas seulement une force physique subtile, mais aussi une matière physique subtile, intermédiaire entre la vie et la matière grossière, créée dans une substance physique subtile et précipitée la forme ainsi créée dans notre matérialité plus grossière est une chose faisable. Il devait être possible, et certains affirment qu'il est possible pour un objet formé dans cette substance physique subtile d'être transféré dans sa subtilité dans l'état de la matière grossière, directement par l'intervention d'une force et d'une méthode occulte, que ce soit avec ou même sans l'aide ou l'intervention d'un procédé matériel grossier. Alors, il y a un exemple. Une âme désirant entrer dans un corps ou se construire pour elle-même un corps afin de participer à une vie divine sur terre, pourrait être aidée à le faire, ou même pourrait recevoir une forme par ce procédé de transmutation directe sans passer par la naissance produite par l'acte sexuel et sans être soumise dans sa croissance mentale et le développement de son corps matériel, à la dégradation et à aucune des lourdes limitations qui sont inévitables dans notre présente condition d'existence. Elle pourrait alors assumer toute une suite, la structure, les fonctions et les pouvoirs plus grands d'un corps matériel vraiment divin, tel qu'il doit un jour surgir par une évolution progressive vers l'existence totalement transformée à la fois de la vie et de la forme dans une nature terrestre divinisée. Ces mots donne l'espérance que Sri Aurobindo, qui avait déjà divinisé l'enveloppe physique subtile, pourra employer le mode supramental de manifestation pour présider dans le domaine même de la matière à la nouvelle humanité que la mère initiera. Dans une aurore dorée d'un âge divin, la mère sera le premier être à atteindre progressivement un corps divin dans un corps né d'une façon humaine. Tandis qu'aidée par l'accomplissement de la mère, Sri Aurobindo sera le premier à endosser le vêtement physique de la transformation par une projection de substances et de formes émanant de la surnature. Rien, évidemment, n'est certain de ce que Sri Aurobindo voudra faire. Mais la possibilité que nous exposons n'est pas en désaccord avec la lumière inextinguible et victorieuse que nous avons entrevue au-delà de l'humain. Dans l'événement qui, au regard superficiel du monde aspirant, apparaît comme un coucher de soleil universel. Le départ de Sri Aurobindo, KD Setna, traduit de l'anglais en français. Alors c'est Amal Kiran, KD Setna, et je dépose cette lecture aux pieds de Sri Aurobindo et de Douce Mère, en leur disant merci d'être ici à Auroville. Merci Sri Aurobindo, merci Mère. Ganga Lakshmi.